Suite des matins avec la revue de presse internationale de Thibaut Cavaillès. Bonjour Thibaut.
Bonjour Guillaume.
Une revue de presse qui s'intéresse aujourd'hui à des pays peu habitués à la démocratie.
Cela s'est passé en quelques heures hier au Soudan. Les leaders de l'opposition qui menacent d'une grève générale et d'une manifestation monstre s'ils ne sont pas entendus. L'armée aux commandes désormais du pays qui alors propose dans la foulée une réunion. Et dans la soirée, un accord avec la plupart des exigences des leaders de la contestation, nous disent les dépêches ce matin. Le pouvoir pourrait être transféré à une autorité civile. Il est encore un peu tôt ce matin pour trouver dans la presse plus de détails ou analyses, mais cette actualité nous montre que les citoyens soudanais sont peut-être en train de remporter leur combat. Et ça n'a pas été facile. Après des mois de manifestations depuis décembre dernier et des tentatives de manipulation de la part du régime de Béchir. C'est la BBC qui nous relate cette histoire. Le groupe britannique, sur son site internet, raconte que les services de sécurité soudanais se seraient servis du conflit au Darfour pour tenter de saper les manifestations populaires, et ce, via de fausses déclarations d'étudiants torturés. Explication. Le 29 décembre dernier, raconte la BBC, le ministère de l'Information affirme qu'une cellule rebelle qui attisait les manifestations et planifiait la violence a été découverte. Les services de sécurité soudanais ont appréhendé les membres de cette cellule. L'information relayée par les chaînes de télévision publique soudanaise poursuit le média britannique et par Facebook également, sur lequel sont diffusées des vidéos. Des vidéos montrant de jeunes hommes confessant qu'ils font partie d'un groupe militant du Darfour, région rebelle du pays. Les étudiants y déclarent qu'ils ont tenté d'inciter à la violence et qu'ils avaient sur eux des armes lors des manifestations. Mais voilà, ce que nous apprend aujourd'hui la BBC, c'est que ces aveux, eh bien, n'en sont pas. Selon l'un des hommes apparaissant sur les vidéos, lui et d'autres étudiants ont été enlevés mi-décembre, puis emmenés dans des locaux et là, frappés à coups de poing et de bâton et soumis à des chocs électriques par les services de sécurité soudanais. Et ce, afin qu'ils racontent ce que les autorités voulaient faire croire aux citoyens. Mais voilà, poursuit le récit de la BBC, très vite, des amis des étudiants présentés comme des rebelles les ont reconnus et ont réussi à prouver que tout cela était faux. Les commentaires de Facebook contestant la validité des aveux sont devenus viraux, explique la BBC. L'incident a même contribué à alimenter les manifestations qui ont valu sa chute à Omar el-Béchir, l'arroseur arrosé, à lire donc sur le site de la BBC.
En Arabie Saoudite, Thibault, des exécutions qui n'empêchent pas les patrons américains de se presser dans la capitale.
37 prisonniers exécutés mardi, tous décapités et un même crucifié en place publique. Plusieurs journaux nous en parlent. Depuis le Caire, le correspondant du quotidien espagnol El Mundo nous raconte que les victimes étaient pour la plupart des membres de la minorité chiite, maltraités dans le royaume et avaient été reconnus coupables d'espionnage, de violence, de terrorisme et de participation à des manifestations. Ces exécutions ont été condamnées depuis mardi par la communauté internationale, l'ONU, qui par la voix de Michelle Bachelet, sa haute commissaire aux droits de l'homme, juge odieux le fait qu'au moins 3 des suppliciés étaient mineurs au moment de leur procès. La Grande-Bretagne aussi, The Guardian, nous dit que le ministre des Affaires étrangères britannique, Sir Alan Jenkin, devant la Chambre des communes, a ignoré les subtilités diplomatiques habituelles, estimant que quiconque à la Chambre à peine 2 jours après Pâques trouverait plus répugnant que tout ce que nous pouvons imaginer, le fait que l'une des personnes exécutées soit crucifiée. Sir Alan Jenkin rapporte The Guardian pour qui il est très important que le régime saoudien comprenne que l'opinion mondiale ne peut que condamner de plus en plus fort. L'opinion mondiale, mais pour l'instant pas la France, ni les États-Unis. Les États-Unis qui, bien au contraire, ont vu plusieurs de leurs grands patrons, nous dit CNN Business, plusieurs de leurs grands patrons se trouvaient à Riyad au lendemain de ces exécutions. Les PDG, entre autres de HSBC, de JP Morgan et d'autres grands groupes qui sont montés sur scène, apprend-on, lors d'une conférence financière. Tout s'explique. Les relations avec les entreprises et les investisseurs étrangers qui ont suivi l'assassinat de Khashoggi avaient récemment commencé à se dégeler, raconte CNN. Rappelez-vous, l'affaire Khashoggi, ce journaliste saoudien basé aux États-Unis, assassiné par des agents de son pays en Turquie. Le PDG de Goldman Sachs, poursuit le site de CNN, se serait rendu à Riyad en début de mois, quelques jours à peine avant que la banque n'ait aidé à organiser une vente d'obligations de 12,5 milliards de dollars pour le géant pétrolier appartenant à l'État saoudien, Saudi Aramco. HSBC ou JP Morgan ont également travaillé sur cet accord, poursuit CNN, pour une opération dépassant en tout les 100 milliards de dollars. Et ceci alors que notre PDG, celui de BlackRock, société de gestion d'actifs, a déclaré à la conférence de Riyad hier que sa société cherchait d'autres opportunités dans le royaume, cacher ces exécutions donc que je ne saurais voir.
Et puis on termine, Thibaut, avec allez, ce que l'on pourrait appeler, à l'aide d'un euphémisme, ces démocraties en devenir, la rencontre depuis quelques minutes entre Vladimir Poutine et Kim Jong-un.
Le leader nord-coréen et le président russe qui se sont serrés la main il y a un peu plus d'une heure à Vladivostok, sur le quai de la gare. Hier, Kim Jong-un a donné une rapide interview à une chaîne russe. C'est assez rare d'entendre le son de sa voix, alors écoutons-le. J'espère, dit-il entre autres, que je pourrai évoquer de manière concrète le règlement de la situation sur la péninsule coréenne et le développement de nos relations bilatérales. Sur son site, Gazeta.ru, le journal russe qui propose un direct de la rencontre ce matin, titre sa page ainsi « Kim Jong-un rend visite à Poutine, un pied de nez à Donald Trump ». On pourrait croire qu'il s'agit d'une expression signée Vladimir Poutine, mais non. La Gazeta reprend là un terme utilisé la semaine dernière par le site américain Foreign Policy. Et chacun donc de surfer sur l'échec du sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un en février dernier, c'était au Vietnam. Poutine, d'un côté, qui relate le New York Times, souhaite consolider les tendances positives des pourparlers de M. Trump. Et Kim, de l'autre, qui pour le quotidien américain, cherche à réaffirmer sa nouvelle image auprès de son peuple en tant qu'acteur mondial et envoie un message à Washington lui indiquant qu'il élargit là son jeu diplomatique. Voilà ce que l'on peut dire ce matin, Guillaume, de ce drôle de spectacle que nous offre le monde.